pour vous raconter l'histoire de ces petits tickets là, hein. Donc d'abord je vais commencer par vous montrer les vrais, hein. Donc voilà, là un vrai ticket mensuel que j'achète tous les mois, hein. Là les frais, les nôtres à nous, vous voyez, c'est exactement les mêmes, hein. Quand vous achetez un ticket à Paris à l'unité, c'est exactement les mêmes, hein. D'accord, hein. Alors il y en a, vous verrez, il y en a celui-là, voilà. Alors, depuis à peu près 10 ans, la Fédération anarchiste et puis le mouvement anarchiste en France bénéficient d'un regain de curiosité, hein, et d'un regain d'attractivité. Hein. D'une part parce que on fait depuis moi 30 ans du militantisme, mais aussi par défaut parce que autour de nous tous les marxistes, les trotskistes, les maoïstes se sont effondrés définitivement avec la chute du mur de Berlin, la chute du communisme d'État en URSS et comment ça s'appelle, à Cuba ou en Chine ou ailleurs. Pour des Canadiens ou pour des Américains, l'URSS c'est loin, les pays soviétiques c'était loin, pour nous c'était 250 km. Donc il y avait un mythe de la révolution russe, très 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 profond chez les ouvriers, enfin chez les classes exploitées. Et quand tout ça s'est effondré, tout s'est effondré en même temps, y compris la nécessité de faire la révolution pour changer le monde. Hein. Et donc, nous, on s'est retrouvés sur le devant de la scène parce que les gens qui avaient envie de changer le capitalisme, quand ils regardaient qu'est-ce qu'il y avait comme proposition, ils tombaient soit sur les écologistes, soit sur les anarchistes. Mais on avait un discours qui était très théorique et même si on était au cœur des luttes de l'extérieur un petit peu, une approche assez théorique et assez conceptuelle. Et alors, effectivement, on avait des affiches avec lutte des classes, travailleurs, exploiteurs, machin, c'est des salauds, tout ça. Mais uniquement sur des concepts, l'autogestion, la révolution, et tout comme ça. Et puis, on s'est dit qu'on ne pouvait plus être uniquement contre, toujours, et que les questions que les gens nous posaient, c'était pas simplement qu'est-ce que vous pensez de telle chose, qu'est-ce que vous pensez du capitalisme, qu'est-ce que vous pensez du pillage de la planète, qu'est-ce que vous pensez de l'oppression des femmes, des immigrés, c'est comme ça. On disait ouais c'est pas bien. Bon. Une fois que tu as dit ça, les gens disaient, mais qu'est-ce que vous proposez? Et qu'est-ce que vous faites? Et donc on s'est dit, il faut qu'on change notre approche. Plutôt que d'affirmer que nous, on a raison, hein, et que les autres sont des méchants, des pas beaux, hein, d'accord? Il faut qu'on... qu'on donne envie aux gens et qu'on leur dise mais si jamais j'ai un jour j'ai envie de changer la vie, hein, de changer la société, bah pourquoi pas essayer ce que me proposent les anarchistes. Nous, on n'est pas l'avant-garde, hein. C'est pas nous qui allons faire la révolution. Sont les gens, c'est le peuple. Et le peuple, il fait jamais la révolution quand tout va bien. Hein? Le peuple, il fait la révolution quand il dit, de toute façon, même avec les anarchistes, ça ne peut pas être pire que maintenant. Non, c'est vrai. Instinctivement, tu ne vas pas changer quelque chose qui te permet de survivre pour quelque chose dont tu crois que ça ne va absolument pas marcher. Tu vas changer parce que tu te dis, ça ne peut pas être pire, et puis, globalement, tu dis, effectivement, leur truc, ça peut marcher parce que je les vois tous les jours, et puis, effectivement, même maintenant, là, ils arrivent à faire des trucs qui marchent. Hein? Voilà. Alors, après, on s'est dit, bon, pour crédibiliser les pratiques libertaires et l'idée de l'anarchisme, il faut qu'on trouve des choses qui touchent quotidiennement les gens. Et on avait autour de nous ce qu'on, nous en France on appelle les gauchistes, c'est-à-dire les trotskistes, les maoïstes, le Parti communiste, les Verts. Et eux, leur tactique, c'est alors je mets le mot entre guillemets parce que je crois comprendre que en Amérique du Nord, c'est pas le même mot. Ils sont plus radicaux. C'est-à-dire, quand un syndicat réformiste demande 100 francs, eux, ils vont demander 200 francs. Hein? Mais c'est pas parce que tu demandes 200 francs plutôt que 100 francs que tu es plus révolutionnaire et que tu remets en cause le système. Et donc, nous, on s'est dit, ça sert à rien de demander 200 francs ou 300 francs ou 1000 francs. Ce qu'il faut, c'est qu'on demande des choses qui remettent en cause le système. Et dont les gens vont pouvoir faire, même sans faire exprès, le lien entre ce qu'on propose comme société et la relation avec la revendication immédiate. Et on a appelé ça des revendications de rupture. Parce que ces revendications n'ont pas pour but de faire la révolution immédiatement, hein, mais simplement d'enfoncer un coin dans le système capitaliste, dans le système religieux, dans le système étatiste, qui remettent en cause fondamentalement ce système et qui préfigurent ce que nous, on pourrait proposer, ce que pourrait être l'anarchisme. Alors, je vais être très concret. Alors, vous voyez, là, c'était... Avant, on disait ça comme ça. Alors, maintenant, voilà ce qu'on dit. Alors, on dit, par exemple, quand les femmes demandent la liberté de contraception, c'est tout à fait réformiste. Avoir accès à la pilule, avoir accès à l'avortement, c'est tout à fait réformiste. Sauf que ça remet en cause une des principales idées religieuses qui soutient le système au jour d'aujourd'hui et qui est de dire le corps des femmes et le corps des hommes, c'est pas à la religion, c'est pas à l'État de décider, c'est à nous. C'est nous, femmes, qui avons à décider ce qu'on doit faire, si on veut des enfants et quand on le veut. Donc, à travers une revendication immédiate réformiste, qui n'est pas la révolution, on remet en cause un des fondements du système. Pareil, là on sort d'une période anti-guerre, en France, dans les années 60, il y a eu des grandes luttes autour de l'objection de conscience. Hein? Et nous, on s'est battus pour l'objection de conscience. Et on se battait pourquoi ? L'objection de conscience ne détruit pas l'armée. Mais la revendication de l'objection de conscience par rapport à une armée, quelle qu'elle soit, est insupportable. Pourquoi ? Parce que quand on se bat pour l'objection de conscience, on réaffirme que c'est à l'individu de choisir ses luttes. Non, j'irai pas me battre pour le drapeau canadien, français, américain, j'irai pas me battre pour Esso, j'irai pas me battre pour Chirac, j'irai pas me battre pour le nationalisme français, québécois ou corse ou basque chez nous. Hein, d'accord ? Et on dit, c'est pas à l'armée de décider, c'est pas à l'État de décider. Et donc là, on enfonce un coin et on montre bien que pour nous, l'individu est plus important que l'État ou la religion. Alors, je reviens là-dessus. 1995, il y a eu une très grosse grève. Il y avait plusieurs millions de personnes en France. Bon, vous allez me dire qu'en France, on fait toujours grève. C'est vrai, mais on a 8 semaines de vacances aussi. Hein. D'accord ? On a la sécurité sociale, et donc là, on n'est pas prêt de lâcher. Hein. Ça, moi, je vous le dis. Et en 1995, donc, très, très grosse grève, des millions de personnes dans la rue. Et dans le quartier où j'habite, il y avait plein d'usines en grève, plein de les postiers, les hôpitaux, les transports, la santé, les instituteurs, enfin plein de gens en grève. Et donc les instituteurs, les enseignants de mon quartier ont décidé de convoquer tous les grévistes du quartier pour faire une assemblée de grévistes. Et donc nous on y a été avec plusieurs camarades anarchistes, hein. Et puis au départ il y avait beaucoup de les bureaucrates syndicaux voulaient utiliser cette assemblée pour uniquement faire passer les messages vers la base pour dire on va aller à telle manifestation, on va faire cette chose. Et nous on a commencé à aller dans cette assemblée, puis on a commencé à dire OK, on fait grève contre. À l'époque, c'était contre un plan qui voulait remettre en cause la sécurité sociale. On fait grève contre le plan Juppé, mais nous, on veut aussi utiliser cette assemblée pour réfléchir. Pourquoi on fait grève? Pourquoi le gouvernement veut s'attaquer à l'assemblée? Et on a commencé à discuter autour de la notion de public service, de service public. Et on a dit, en France, quand on rentre sur une mairie, il y a marqué liberté, égalité, fraternité. Et on a commencé à dire, il faut qu'on réfléchisse pourquoi il y a marqué liberté, égalité, fraternité. Liberté quoi ? Liberté, c'est est-ce que c'est la loi de la jungle ? Est-ce que c'est l'argent qui doit commander ? Égalité, mais égalité de quoi ? Égalité de droit vis-à-vis de la loi ? Nous, ça ne nous intéresse pas. Fraternité, l'égalité entre les races, tout ça, c'est bien. On a commencé à dire, la vraie liberté, elle n'existe pas sans l'égalité. Et il n'y a pas d'égalité sans égalité sociale. La vraie égalité, c'est l'égalité sociale qui compte. Or, dans le système où on est, la seule égalité sociale et la seule garantie d'égalité sociale, c'est la gratuité. Parce que, qu'on soit pauvre ou qu'on soit riche, quand quelque chose est gratuit, on est tous sur le même pied d'égalité. Et alors là, on a commencé à enfoncer des coins, y compris vis-à-vis des sociodémocrates, et on a mené une campagne autour de la gratuité de la santé, la gratuité de l'école, la gratuité des transports, la gratuité du téléphone, la gratuité des postes. Et on a commencé à faire pendant les grèves, à faire des opérations. Par exemple, on avait des copains anarchistes qui étaient à EDF, je sais pas comment on dit, à Électricité de France. Hein, je sais pas comment c'est au Canada.
Hydro-Québec.
Voilà. Et donc ils étaient syndiqués et tout. Et ils ont commencé, pendant les grèves, à distribuer de l'électricité gratuitement. Hein? Et alors évidemment, tout de suite, les bureaucrates syndicaux, la presse a commencé à dire « Oh, vous vous rendez compte, ils distribuent de l'électricité gratuitement. » Mais ça a bien marché, évidemment. Évidemment. Hein, d'accord. Et puis, on avait des copains qui étaient au poste. Et donc, sur la fin de la grève, ils ont dit « Mais c'est chiant parce que... les gens, ils viennent toucher de l'argent à la poste, les retraites, les mandats et tout comme ça. Et quand on fait grève, si on ferme simplement à la poste, on gêne tout le monde. Alors ils ont commencé à dire, on va distribuer gratuitement le courrier pour les personnes. Par contre, on va bloquer les lettres pour les entreprises. Et on va commencer à distribuer les lettres gratuitement. Mais, donc, à la fin de la grève, à la fédération anarchiste en particulier, mais dans le mouvement anarchiste, on a commencé à se dire, ça c'était pas mal, mais c'était des petites expériences. Et donc pendant 2-3 ans, on a essayé de voir comment on pourrait populariser ce type de grève, ce type d'action. Et en 1999-2000, je vais doucement parce que comme ça il traduit. il y a eu en France, il y a eu un grand mouvement des chômeurs et des sans-emploi et des précaires. Et on avait des copains anarchistes aussi dans mon quartier, pareil. Et donc, moi j'étais pas chômeur, hein, mais j'allais pas dire aux chômeurs ce qu'il fallait faire. Mais c'est pareil, on les a aidés à envahir les services publics, les hôpitaux, l'électricité. Pour avoir accès gratuitement, quand tu es chômeur, à l'électricité, parce que tu n'as pas assez d'argent. Et donc, on a mis en contact les chômeurs et les syndicats pour voir comment on pouvait travailler. Et là aussi, il y a eu plein de... Comment ça s'appelle, d'expérimentations. Par exemple, il y a des petites villes en France où ils faisaient des réquisitions de logements, pareil, hein, comme ici. Mais un peu. Alors je sais qu'à Montréal ça existait, je sais plus si ça existe. Ils réquisitionnaient des friches, ils faisaient des jardins ouvriers et ils distribuaient gratuitement les légumes et les choses qui faisaient pousser, quoi. Hein? Voilà. Mais tout ça, ça restait toujours très théorique. Hein, on en revient toujours au même problème, c'est-à-dire qu'on disait aux gens, on parlait d'autogestion, d'action directe, mais dans des termes comme ça. Et donc on a discuté, on discute beaucoup. Hein. Et puis on avait des copains qui étaient syndiqués dans les transports, tout ça. Et puis on a dit, bon, la gratté, quand on parle aux gens, on voit bien que ça allume quelque chose dans la tête, mais c'est pas assez concret. Il faut qu'on trouve quelque chose de concret. Et donc, moi, comme je travaille au ministère des Transports, et comme on a des copains chauffeurs de bus dans mon groupe, on a dit, il faut qu'on trouve quelque chose vis-à-vis des transports. Parce que ça, les gens, tous les jours, ils prennent les transports. Et puis, il y a un jour, il y a un copain ou une copine qui a dit, on va faire des faux tickets. Et puis, comme ça, on va faire rentrer les gens. On a dit, ah ouais, ça c'est une bonne idée. Alors on a commencé à fabriquer des faux tickets et puis à faire des tracts. Hein. Donc on a commencé à distribuer les tickets à la sortie des métros, tout ça. Et puis on a vu, on distribuait les tickets et puis les tracts expliquaient pourquoi c'était gratuit. Et les gens, ils venaient nous voir, ils nous posaient plein de questions, mais on n'avait pas de réponse. Alors on a tout rangé, on a dit bon, on va faire à l'envers. On va réunir des gens et puis on va leur demander c'est quoi les questions que vous vous posez. Hein? Et alors on a cherché, on a trouvé plein de chiffres, on a trouvé un truc. Et on a trouvé, à force de discuter avec les gens, on a trouvé trois axes. Et on a organisé notre propagande autour de trois axes. Premier axe, un problème social. On dit, au lieu de parler de classe, on dit, aujourd'hui, ce sont les pauvres qui payent pour que les riches soient riches. Ce sont les pauvres qui payent pour que les riches voyagent gratuitement. Et généralement, on donne trois exemples. On dit... j'ai ma carte, moi. Faut savoir que à la suite de lutte, moi ma carte, il y a mon patron qui en paye la moitié tous les mois, hein, pour aller travailler. Donc je dis, mon patron à moi, il a une voiture avec un chauffeur. Il voyage gratuitement. Moi, j'ai ma carte. Mon patron, il me paye la moitié. Donc moi je paye la moitié pour aller travailler, pareil que lui. Et en plus j'ai pas de chauffeur. chauffeur de bus, ouais. Un chômeur, un étudiant, un lycéen, un retraité. Lui, il n'a personne pour payer son ticket de métro. En fait, ce sont les pauvres, c'est-à-dire ceux qui ont le moins d'argent, qui payent, alors que ceux qui ont le plus d'argent ne payent pas les transports gratuits. Les députés, le maire, ils ont tous des voitures de fonction, des cartes gratuites. Et donc, on a dit, maintenant, tous ceux qui fraudent, qui sautent par-dessus la barrière, on va leur donner raison. On va leur dire c'est bien. Parce que c'est pas un acte uniquement de désobéissance civile, c'est un acte de réappropriation sociale. C'est pas normal que les pauvres y payent alors que les riches y voyagent gratuitement. Et ça, il n'y a pas besoin de parler de lutte de classe, tout le monde comprend. Tout le monde comprend quand tu payes ton métro tous les jours et puis qu'on te dit, mais tu vois pas, toi tu payes ton métro tous les jours et ton patron il est en voiture, il vient te dire, mais non, c'est pas normal les voyages gratuits, il faut que tout le monde paye. Alors lui il paye pas. Je veux dire, on n'a plus besoin de parler de lutte de classe, tout le monde comprend. Donc premier truc. Deuxième truc, ce que vous appelez la communauté, nous ce qu'on appelle la commune, on a dit il faut les espaces publics appartiennent à tout le monde. Donc quand on se promène sur les trottoirs, dans la rue, tout le monde se promène librement. Les services publics, on les paye avec nos impôts, hein, notamment les transports. Donc en fait, on a déjà payé une fois. Donc ça nous appartient à nous. Mais nous, c'est jamais nous qui décidons où sont les bus, quand est-ce qu'ils s'arrêtent, s'il faut faire une ligne de métro, s'il faut faire des trucs pour les voitures, s'il faut faire des trucs pour les vélos. En fait, l'espace public, il nous appartient, mais il est volé par les capitalistes et par les chefs. Il faut qu'on se réapproprie au quotidien cet espace. Et donc, pareil, on a dit, la ville nous appartient à nous, les élus doivent nous obéir à nous, et pas nous à obéir à la volonté des élus. Et le troisième, et ça marche bien, parce qu'après, on va vous expliquer ce qu'on fait. Et tout ce qu'on fait, c'est en rapport avec ces trois idées. Et le troisième sujet, c'est l'approche écologiste, qui est en gros de dire, plus il y a de transport gratuit, moins il y aura de voitures dans les rues, et mieux on va partager l'espace entre les piétons, les vélos, les rollers, et les voitures qui prennent plus de place. Et après, on a inversé tous les problèmes. On a commencé par dire... Mais le prix de fabrication, le prix des tourniquets, le prix des contrôles, ça coûte plus cher que si c'était tout gratuit. Alors, les sociétés de transport ont dit non. On leur dit, mais amenez les chiffres. Mais ils ne voulaient pas amener les chiffres. Mais nous, on les avait. Nous, on les avait. Et donc, alors après, on a commencé à dire, bon, tout ça c'est bien, mais on va inverser l'ordre des choses. C'est-à-dire, on va déclarer que les choses sont gratuites, et c'est au gouvernement et aux sociétés de transport de prouver qu'il faut que ça soit payant. Hein? Et on va affirmer que dans la vie, la gratuité pour tous et pour toutes, ça affirme le fait que les rapports entre les gens ne sont pas uniquement des rapports d'argent. Hein? Donc là, on revient avec la notion de rupture par rapport à tout à l'heure. Hein, d'accord? Donc on a commencé... Voilà. Alors là, à partir de ce moment-là, une fois qu'on avait été d'accord sur le fond, on a commencé à faire des trucs très concrets. On a fait les tickets. Donc les tickets, on arrive, on voit une station de métro... Hein? On arrive à 50, 60, une centaine de personnes. On investit la station de métro. On bloque les portillons, comme vous, là, que vous avez. On la déclenche. hein, qu'on a récupéré par les syndicats à l'intérieur. On ouvre les portes et on déclare la station de métro porte ouverte, free zone. D'accord ? Et on donne des tickets à tous les gens qui rentrent en disant, voilà, maintenant, c'est gratuit. Aujourd'hui, pourquoi c'est gratuit ? Et pourquoi ça ne serait pas gratuit demain ? Et on donne des tickets à tout le monde. Hein ? Et on donne des petits tracts, comme ça, comme vous allez voir, là. Hein ? On arrive avec des grands panneaux où les gens peuvent s'exprimer, peuvent dire des choses. Il n'y a pas assez de métro. Les métros pour les lignes de pauvres ou dans les quartiers pauvres, ils sont dégueulasses, alors que les métros dans les quartiers riches, ils sont propres. Pourquoi, quand j'habite, moi, en banlieue, le bus, il met 3/4 d'heure pour arriver, alors qu'à pied, je mets 10 minutes. Voilà. D'accord ? Donc, on arrive, on distribue, on fait rentrer les gens. Le seul truc, c'est qu'on ne veut pas mettre les gens dans une position d'être après, avoir des amendes ou des trucs comme ça. Donc, on a des tracts qui leur dit, on prévient, il y a des agents. Comme chez vous, dans la station de métro, il y a un agent qui est là. Donc, on va lui parler gentiment. On lui dit, on occupe la station de métro. Et est-ce que vous allez prévenir vos chefs qu'on fait rentrer les gens gratuitement, on les force à rentrer gratuitement, et ce qui fait que si jamais il y a des contrôles, s'ils présentent le ticket, eh ben, ils n'auront pas à subir d'amende parce que c'est nous qui les avons forcés à rentrer gratuitement. Hein? Bah oui, parce qu'on ne veut pas mettre les gens dans une position où ils peuvent après avoir des ennuis. Donc on fait ça dans le métro, on fait ça dans le bus aussi. Hein? D'ailleurs, on rentre à 4 ou 5 dans un bus, hop, on rentre, puis on gueule, on dit le bus est gratuit sur toute la ligne pendant 2 heures. Alors les gens ils rigolent, ils arrivent, hop, alors on donne des tickets de métro et tout. Alors, j'en parlais de la police, j'en parlais. Et donc, comment dirais-je ? Donc, on donne des tickets à tout le monde. Alors, ce qu'on s'est aperçu, c'est que, alors, il y a des gens qui nous disent, mais moi, je m'en fous, j'ai ma carte orange. On leur dit, c'est pas grave. Quand tu vois un contrôleur, tu lui donnes ça, et ça permet d'avoir des liens de solidarité entre ceux qui peuvent acheter leur carte, leur billet de métro, et ceux qui n'en ont pas. C'est-à-dire que tout le monde. C'est-à-dire ceux qui ont de l'argent pour payer leur métro deviennent solidaires de ceux qui n'ont pas d'argent. Hein? Ce qui fait que même en termes d'actes militants, il n'y a pas besoin d'être beaucoup militant. Hein? Il suffit d'avoir un ticket et puis quand il y a un contrôleur qui passe, hop, on lui donne ça et puis on lui présente l'autre avec. On dit toujours aux gens que ça c'est pas un vrai ticket, que ça, ils peuvent avoir des amendes, mais ça fait rien. Hein? On en a quand même donné 300 000. Il y a 300 000 comme ça, tickets qui ont été donnés en 2 ans à Paris. Alors maintenant, ils sont très connus. Hein? Ils sont très connus. Alors on a été aux sorties des lycées, on a fait les sorties des facultés, on a fait les sorties d'usines. Et on a travaillé toujours sans violence et avec les agents de la société. C'est-à-dire qu'on disait, on ne veut pas votre emploi. Ce qu'on veut, nous, c'est vous aider. C'est aider le service public. Et on sait, parce qu'on les a interviewés aussi, on sait que, par exemple, pour eux, en France, les chauffeurs refusent de devenir agents de police dans le bus. Et donc, on a une complicité vis-à-vis d'eux. C'est-à-dire qu'on leur dit, mais on est dans le même sens, on va dans votre sens. Hein? Alors, vis-à-vis de la police, comment on fait ? Alors, quand on va quand on rentre dans les bus, alors évidemment, on est 4 ou 5 dans un bus, quelquefois on est un peu serré, c'est pas toujours facile. Mais maintenant, les chauffeurs, ils nous connaissent, et quand ils savent qu'il y a des policiers qui nous attendent, ils nous le disent souvent, hein, ils nous descendent avant. Et puis comme ça, quand les policiers arrivent à la prochaine station de bus, eh ben, on n'est plus dedans, nous. Hein? Quand on investit une station de métro, on investit une station de métro, on est déjà, nous, à peu près 50-70, au minimum. Et on investit une station de métro où il y a du monde. C'est-à-dire que la police, ils étaient embêtés. Parce que d'abord, la police n'a pas le droit d'intervenir sans l'accord de la société de transport. Et la société de transport, dans un premier temps, ils voulaient pas d'ennui. Ils se sont dit, oh, c'est une vingtaine de zigotos, c'est rien du tout. Et comme on faisait ça dans les stations de métro, les samedis après-midi ou les vendredis soirs où il y avait beaucoup de monde, ils étaient embêtés vis-à-vis des gens. Et puis quand tu commences à dire, quand tu vois des gens, puis tu lui dis, on vous fait rentrer gratuitement, les gens, ils sont plutôt de ton côté plutôt que des gens de la police. Forcément. Hein. Mais ça nous est arrivé plusieurs fois où la police est arrivée en nombre et où on est parti. Parce que on voulait pas d'affrontement avec la police, on voulait pas une... Bon, ils étaient plus forts que nous. On a dit bon ok, on s'en va, on se replie, on va ailleurs. Hein. Généralement, les opérations elles durent une heure et demie, deux heures. Pas beaucoup plus. Hein. Parce qu'on sait qu'après, d'abord nous on fatigue, on gueule, avec des affiches, tout ça, c'est le cirque hein, qu'on arrive. Hein. Voilà ce qu'on fait. Après, on fait d'autres choses aussi maintenant. On réunit on demande aux gens des témoignages contre les violences policières dans le métro. On les réunit. Et on envoie ça à des syndicats de magistrats, à des trucs comme la Ligue des droits de l'homme, un peu comme Copwatch ici. Hein. Et ça permet d'alimenter toute une comment ça s'appelle une propagande vis-à-vis des immigrés, vis-à-vis des jeunes, ou à Paris, je suppose que c'est pareil ici, les policiers d'abord demandent les papiers, les rafles et tout comme ça. Donc ça nous permet aussi vis-à-vis des immigrés, vis-à-vis des jeunes, d'avoir des positions, de les attirer avec des choses un peu ludiques. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'autre aussi? On commence à faire l'inverse maintenant. Alors, pour prendre un exemple à Montréal, imaginez, on arrive à pareil, à 50-70, avec des déguisements d'agents de police ou des déguisements d'agents de STM. On va au carrefour Saint-Denis-Sainte-Catherine, ici. On met des barrières sur les trottoirs. Hein. Et puis, non, parce qu'on va toujours dans les endroits où il y a des gens et où les gens vont prendre ça avec la rigolade, ils vont prendre notre défense. C'est ça le problème. La police, ils sont comme tout le monde. Quand il y a 300 personnes autour d'eux qui commencent à les agresser, mais à nous défendre, nous... ils reculent, ils ont peur, ils veulent pas d'emmerde. Enfin, ils veulent pas d'emmerde. Ils veulent pas. Le temps qu'ils viennent à 300, après nous on n'est plus là, on disperse tout le monde. Donc on arrive dans les grands carrefours comme ça, on met les barrières. Donc les gens arrivent et puis on dit aux gens est-ce que vous avez payé votre taxe pour les trottoirs? Et alors les gens ils disent mais quelle taxe pour les trottoirs? Ben on leur dit ben oui. Pour entretenir le trottoir, pour le fabriquer, il faut des taxes. Ah ouais. Mais non, pourquoi on paierait maintenant les trottoirs, c'est gratuit, c'est un espace public, c'est gratuit. Alors on dit, oui, d'accord, mais quand vous rentrez dans le métro, c'est un espace public, vous payez. Pourquoi on ne vous paierait pas sur les trottoirs? Alors les gens, ils se grattent. Alors là, ça commence à devenir pour eux un peu compliqué. Puis après, on a des grands panneaux, on explique un peu tout ça, on renverse la situation. C'est-à-dire, on a fait ça aussi avec les voitures. Là, moi, je vais dans mon quartier, il y a un marché. Le dimanche matin, il y a beaucoup de voitures. On bloque les voitures, puis on dit, maintenant, ça, c'est un espace free zone, il n'y a que des piétons. Puis on dit aux voitures, vous faites la circulation, vous allez ailleurs, tout ça. Alors le temps que la police arrive, tout ça, puis comme les gens, ils prennent... C'est toujours pareil. Quand c'est des choses de bon sens, ça nous est arrivé plusieurs fois, à la sortie du métro, d'avoir affaire à des vigiles du métro, à des policiers qui arrivaient à deux ou trois Et nous, on distribuait nos tickets de métro, on distribuait des tracts, on avait des grands trucs. Les gens, ils nous disaient, partez, tout ça. Nous, on disait, non, on part pas, on est chez nous ici. Si c'est un espace public, ça nous appartient à nous. Oui, mais c'est interdit, tout ça. Non, non. Et puis, on commence à un petit peu à monter le ton, et les gens, ils prennent notre défense. Parce que expliquer aux gens qu'ils peuvent voyager gratuitement, qu'on les vole du voyage gratuit, vous allez voir, tout le monde est d'accord. Hein? Et pour eux, c'est une occasion de manifester aussi, tranquillement. Alors voilà, en gros, voilà où on en est. Il faut savoir qu'en France, et en Belgique, il y a à peu près 30 à 40 villes où ça commence à se développer. Hein? En Belgique, par exemple, à Bruxelles, ils ont sorti des cartes qui s'appellent le collectif sans ticket. Ils ont des cartes et des cartes de voyageurs gratuits, pareil, hein, avec les mêmes explications, les mêmes trucs où derrière il y a marqué pourquoi le voyage peut être gratuit, tout ça. Et les gens voyagent de plus en plus gratuitement. Et ils montrent ces cartes. Alors il y a les contrôleurs qui arrivent et eux, ils ont une adresse unique. Et quand ils ont des amendes, les amendes arrivent à l'adresse unique. Et alors, il y a des collectifs, par exemple, ils ont mis l'adresse du maire du coin, l'adresse du maire de Montréal. Hein, tu vois, voyez, non. Hein, mais pas à mairie de Montréal, l'adresse où il habite. Hein. Donc en fait, le maire reçoit toutes les amendes à son adresse. Il faut dire que je sais pas si je l'ai dit, la fraude en France, c'est un phénomène social extrêmement important. Les chiffres officiels, c'est qu'il y a à peu près un voyageur sur 5 qui fraude. Et il y a 90% des voyageurs qui ont fraudé une fois dans leur vie. Donc en fait, c'est pas un phénomène de jeunes qui ont envie de rigoler, qui passent par-dessus pour rigoler. Toi. C'est vraiment un phénomène social. Et les élus ne savent plus faire comment faire. Et puis nous, on arrive, on dit, mais vous voulez supprimer la fraude ? Eh bien, supprimer les tourniquets. Pas de tourniquets, pas de fraude. C'est pour ça. Hein, les premiers slogans à nous, c'était zéro franc, zéro fraude. Hein. Avec les transports gratuits, il n'y a pas de fraude. Ça ne coûte rien. Et ça, n'importe qui est capable de le comprendre. Hein? Et les gens commencent à intégrer ça. À tel point qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des villes en France où les maires commencent à mettre les transports gratuits. Alors, ce qui nous met à nous dans des positions embêtantes... Et le plus drôle, généralement, c'est que ce sont des maires de droite. Les maires de gauche sont contre. C'est-à-dire que, en fait, les maires de droite... parce que moi, je leur ai posé la question une fois. Je leur ai dit, mais vous êtes de droite, pourquoi vous faites les transports gratuits ? Ils m'ont dit, mais j'ai lu votre acte, effectivement, ça coûte rien. J'ai calculé... ça coûte à peine 1% de mon budget municipal, la gratuité. Hein? Par contre, en termes politiques, pour moi, c'est un coût extraordinaire. Parce que c'est un coût qui ne me coûte rien et qui, en termes politiques, fait beaucoup de choses pour moi. Hein? Alors que les maires de gauche, eux, ils ont un point de vue idéologique. Ils ont bien compris que quand on demande la gratuité pour tous et pour toutes, en fait, on s'attaque à un fond du problème. C'est-à-dire on rentre dans une logique qui est beaucoup plus dangereuse et révolutionnaire que eux, ils le veulent. Hein? Et donc maintenant, il y a à peu près 5 villes en France où les transports sont gratuits. Hein? Et ça marche. Ça marche très bien. Par exemple, un des premiers arguments qu'on donnait, par exemple, j'ai regardé les bus là, à Montréal. Maintenant, partout où je vais, je regarde les bus, je regarde comment ça marche, tout ça. Bon. On est arrivé quand, Jean-Claude? Jeudi. Bon. Jeudi, vendredi. On s'est baladé un peu avant de venir On s'est baladé, quoi. Les trois quarts des bus à Montréal sont vides. Hein, dans la journée. J'ai regardé, les bus, il y a à peine 10% de gens dedans. Hein, d'accord? Vous voyez, quelqu'un, il y a quelqu'un qui vous dit, tu lui dis, mais les transports doivent être gratuits. Mais la première chose qu'ils disent, mais qui c'est qui va payer? Tu leur dis, mais tu payes déjà. Le bus, regarde là, il est vide. D'accord? Il faut payer le chauffeur, il faut payer l'essence, il faut payer l'entretien, il faut payer les cabines, les abris. Si le bus est gratuit, au lieu d'être vide, il est plein. C'est le même prix. Ça ne coûte pas plus cher à la communauté. Mais ça rend service à la communauté. Et ça, c'est imparable. Imparable. Il n'y a aucun politicien qui a un argument contre ça. Aucun. Si en plus tu dis mais ça va permettre aux gens qui, au jour d'aujourd'hui, ne peuvent pas voyager, parce qu'ils sont au chômage, parce qu'ils ont peur de se faire prendre, parce qu'ils ne peuvent pas aller en centre-ville, hein, parce que c'est loin à pied, et que grâce à ça, ils vont pouvoir avoir la liberté de circuler, la liberté de se déplacer, là, il n'y a plus d'argument possible. Aucun. Aucun argument. Pour l'instant, on n'en a jamais vu un qui nous disait... Alors, ils vont chercher des arguments technocratiques et tout comme ça. Mais dans la tête des gens, il n'y a aucun argument face à ça. Alors évidemment ils nous disent mais dans le capitalisme rien n'est gratuit, c'est pas vrai. Et on dit c'est vrai. Quand on dit les transports gratuits pour tous et pour toutes, c'est un peu du mensonge. Parce qu'effectivement, au bout du compte, il y a quelqu'un qui va payer. Alors là ils sont étonnés, on leur dit effectivement il y a quelqu'un qui va payer. Le problème, justement, c'est de savoir qui décide qu'il faut payer plus de flics, plus de voitures de police, plus de prisons, ou alors que l'argent qu'on mettait avant dans la police, dans les prisons, on le met dans les transports gratuits, dans la santé, hein, dans l'éducation. Alors, on dit aux gens, est-ce que c'est toi qui décides de ça ? Les gens, ils disent non. Nous, on leur dit, on fait des assemblées d'usagers, des assemblées de l'ensemble de la ville de Montréal, et puis on décide qu'est-ce qui est important. Si le peuple, il décide que ce qui est important, c'est d'avoir de la police partout, on verra. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est pas vous qui décidez. Mais c'est à vous, normalement, de décider. Donc, là aussi, ça, c'est des trucs qui... en France, le milieu politique est complètement décrédibilisé. Donc, ça, c'est des arguments qui font autre chose que de dire « Voter, ça sert à rien. » C'est des arguments qui disent « Voter, hein, ça sert à rien, mais c'est à vous d'agir. » Et avec ça, c'est possible d'être, au jour d'aujourd'hui, inversé l'ordre des données. Alors, est-ce que je suis assez clair dans ce que je dis? Par exemple, je sais que dernièrement vous avez eu des élections au Québec, là. Hein? Il y a 2 ans, on avait déjà commencé la campagne gratuite. Hein? Il y avait des élections municipales à la ville de Paris. Et donc, à la Fédération anarchiste, on avait décidé de faire une campagne contre les élections, mais une campagne pour la gestion des villes par les habitants. Donc on cherchait des trucs un peu aussi rigolos comme ça. Et on s'est dit, bon, il faut pas qu'on trouve des... On va pas appeler les gens à aller voter pour nous, ça sert à rien. Mais on va essayer, là aussi, d'inverser les problèmes. Donc en disant, nous, on est contre les élections, mais une commune... anarchiste, comment elle va fonctionner? Donc on est pour les élections par mandat, par les comités de quartier. Et puis, s'il y a des élus, les élus vont être révocables par la population. Alors on a dit, bon, ok, les mandats, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, les bulletins de vote en France, ils sont grands comme ça. Vous voyez? Et puis, il y a marqué, je sais pas, Jacques Chirac, Jean-Marie Le Pen, enfin, des connards comme ça. D'accord? Et donc, là, pareil, nous, on a fait des papiers comme ça. Comme ça, voilà. Hein. Et puis, au lieu d'appeler ça bulletin de vote, on a marqué mandat. Mandat pour la prochaine municipalité. Et puis, au dos, on expliquait mandat. Citoyen de la commune du 18e arrondissement de Paris, parce que j'avais dit, je mandate le futur conseil municipal pour avoir les bibliothèques gratuites dans le 18e. Si vous ne faites pas nanana, on va vous révoquer. Et on a distribué ça. Tout le monde en voulait. Alors on en avait fait 5. Un sur les bibliothèques, un sur les crèches, en disant je mandate la municipalité nanana pour avoir les crèches gratuites et développer les crèches parentales autogérées. Une crèche, c'est garderie, entre 3 mois et 2 ans. Il n'y a pas beaucoup de crèches, et il y a des crèches un peu autogérées dans les quartiers, mais les parents se débrouillent tout seuls, même pour avoir un local, c'est pas possible. Alors on avait fait ça, les crèches, je mandate pour que les transports soient gratuits, nanana. Je mandate pour que tous les logements du quartier soient réquisitionnés, nanana. On vous donne un an, au-delà d'un an, on le fera nous. Hein? Mais vous rigolez, mais dans la tête des gens, ça inverse l'ordre des données. C'est-à-dire qu'en fait, c'était pas. Alors on avait marqué libertaire, égalitaire, fraternitaire. Hein? République, libertaire, égalitaire, fraternitaire. OK? Hein, donc on jouait un peu sur tout ça. Et en fait, avec tout ça, les gens, pour eux, ça devient concret. Et on leur explique. On ne fait pas simplement leur dire on est contre les élections, on est contre le Parlement, on est contre le maire. On leur dit, en fait, nous, on est sur les propositions de mandat. C'est-à-dire que c'est aux gens du quartier de décider ce qui est bien pour leur quartier, aux usagers de décider pour ce qui est bien. Voilà, tout ce qu'on fait. Alors, la campagne de transport gratuit, c'est un tel succès, c'est que maintenant, plusieurs fois, les présidents des sociétés commencent à s'inquiéter un peu de notre présence. Hein, et on sait que, par exemple, les directeurs, tout ça, se demandent comment ils vont faire pour contrer ça. Cet hiver, sur la région parisienne, la Société des chemins de fer français a fait une grande campagne contre la fraude qui leur a coûté des millions de francs. Alors nous, on détournait à chaque fois, on mettait combien ça coûte ça, les affiches. Hein? À Montréal, j'ai regardé, dans le métro, il n'y a pas trop de publicité. Dans Paris, est-ce qu'il y en a qui ont été, déjà on comprend le métro à Paris, il y a des publicités partout, sur les quais, partout. Et on a compté le nombre de panneaux, parce qu'on avait des chiffres, toujours pareil en interne. Hein. Et puis on a commencé à faire des communiqués à la presse et à faire des campagnes en disant il y a 30 000, on avait compté sur toute la région parisienne, il y a 60 000 panneaux publicitaires dans le métro. On leur a dit, mais où va l'argent? Alors déjà que la publicité, ça agresse les femmes, ça agresse les individus, on en bouffe toute la journée, mais ça paye, où va cet argent? Cet argent, si publicité il doit avoir, elle doit servir à faire que les transports soient gratuits. Ça c'est pareil, ça inverse l'ordre des données, c'est-à-dire que c'est eux qui sont obligés de se justifier. C'est plus nous. Nous, on n'est plus obligé de nous justifier. C'est à nous. C'est eux qui, sans arrêt, sont maintenant obligés de se justifier pour dire mais oui, mais non, mais... Et maintenant, là, ils sont un peu dans la merde. Hein? Et là, je vous ai amené quelques tracts. Là, c'est une revue de presse, un petit peu, hein, sur 2 ans. Là, il y a un journal qui s'appelle... Alors, même l'Humanité, le journal des communistes, a commencé à parler de nous. Hein. Et il y a Le Monde, les télés, les radios. Alors, il y a un journal qui s'appelle La Vie du Rail, qui est un hebdomadaire, qui est en fait un hebdomadaire, professionnel. Ça s'adresse aux cheminots, à tous les gens qui travaillent dans les sociétés de transport. Et il y a 6 mois, ils ont fait un dossier de 12 pages sur le problème de la gratuité. Car il a fallu qu'ils fassent 12 pages d'hebdomadaire pour essayer de se gratter la tête, pour expliquer pourquoi, oui, mais les chiffres qu'ils donnent, mais oui, mais bon, mais non, on ne sait plus... Et en fait, on n'a rien fait, hein, on n'a même pas été les voir. Et ils ont fait 2 pages sur les collectifs sans ticket. Hein. Donc, paradoxalement, nous, notre peur maintenant, c'est que la campagne, elle marche trop bien. Et on est en train de réfléchir, parce qu'en fait, on s'est aperçu, on s'est dit, mais... si ça marche trop bien, c'est con, ils vont s'obliger de le mettre, ils vont y arriver à le mettre les transports gratuits. Et nous, on va être dans la merde après. Et donc, on commence à travailler sur la suite, c'est-à-dire en disant, bon, les transports gratuits, c'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est qui décide. Hein? Parce que s'ils s'aperçoivent que effectivement les transports gratuits, ça leur coûte moins cher, les capitalistes, ils sont pas si cons que ça. Ils vont commencer par réfléchir à dire merde, ça devient politiquement trop risqué, et puis si économiquement c'est moins cher, eh ben on va y arriver. Donc, nous, on commence à enclencher une dynamique qui est de dire, mais qui décide ? C'est-à-dire, on revient à l'idée que non seulement les transports doivent être gratuits, mais ils doivent être gérés par les citoyens et par les salariés. Parce que comme ça nous met les salariés des entreprises avec nous. C'est-à-dire, les salariés, ils subissent les mêmes patrons que nous. Hein ? Donc, on commence maintenant à revenir sur qui décide. La réappropriation de la ville en plus des problèmes de gratuité des transports. Hein? Un dernier truc, donc il y a maintenant un an à peu près, mois de février, les copains de la Fédération anarchiste de Lyon, qui sont assez impliqués dans un collectif de transport aussi, eux ils ont eu des ennuis avec la police. Ils ont eu des amendes. Ils ont eu des amendes pour distribuer. Ah oui, parce que ils ont essayé de nous faire des procès par rapport aux tickets. Mais il n'y a pas marqué ticket là-dessus. Et il y a souvent à la sortie des métros à Paris des gens qui distribuent des publicités. Et nous on dit mais ça c'est pas un ticket, c'est un truc de publicité. C'est pas. On n'appelle pas la fraude. On la justifie, on n'appelle pas la fraude. On la soutient, c'est tout. D'accord ? Hein ? Pareil. Pour ne pas mettre les gens, toujours pareil, parce que si nous, on appelle à la fraude, ça veut dire aussi qu'on soit capable, après, de gérer les gens qui vont venir nous voir en disant « Mais vous avez appelé à la fraude, maintenant, moi, j'ai un procès, il faut venir m'aider. Hein ?» Il faut être un peu, conséquent. Oui, tout à fait. Hein? L'idée de la gestion directe, on s'est dit, mais bon, on est anarchiste, on considère que les moyens des luttes sont au moins aussi importants que les objectifs. Donc on a commencé à créer des assemblées de tous les collectifs pour se coordonner, pour faire des campagnes nationales, parce que pour l'instant c'était des campagnes locales. Hein. Et maintenant, c'est les Lyonnais et les Marseillais qu'on fait ça les premiers. On appelle à des assemblées d'usagers. D'ailleurs, on dit, on veut que les transports soient gérés par les usagers et par les salariés. Donc, on va commencer, suivant les villes, à appeler à des assemblées d'usagers. C'est-à-dire, on va mettre des affiches en disant, les usagers du métro, venez vous coordonner pour travailler sur tel et tel sujet. En plus, c'est un avantage, c'est qu'on est obligé de répondre à des questions très concrètes aussi. On s'est aperçu, par exemple, que les gens, ils sont d'accord avec nous sur la gratuité, mais ils ont aussi des problèmes quotidiens. C'est-à-dire qu'ils nous disent, les transports gratuits, c'est bien. Mais moi, ma ligne de métro, elle s'arrête tous les jours à 10h. Et en fait, il faudrait qu'elle s'arrête à minuit ou 1h du matin. Ou alors, moi, ma ligne de métro, nous, on est ouvriers, on commence à 6h du matin. Le premier métro, il est à 5h. Et puis, il y en a un toutes les demi-heures. En fait, les métros, ils sont pour les cadres et les employés. Donc, avec ces assemblées d'usagers, on rencontre des collectifs de chômeurs, des collectifs anti-publicistes. Donc on fédère tout autour des problèmes de transport, en fait, tout un tas de luttes un peu trop focus, et là on élargit le point de vue. Hein. Et donc on commence à faire ça. Alors, les assemblées d'usagers, il n'y a pas encore 4 millions de personnes qui viennent à nos assemblées, mais ça met une dynamique en place et on commence à en mettre pas simplement dans Paris, mais un peu en banlieue et un peu partout. Voilà. En gros, voilà. Alors j'ai amené quelques tracts.